Une famille, l'histoire des sensibilités, la solitude, c'est la règle de trois de Sabine Melchior-Bonnet. Dans sa famille, la passion de l'histoire se perpétue depuis longtemps. Son arrière-grand-père, Hippolyte Taine, né en 1828, était historien et auteur des origines de la France contemporaine. Son père, Christian, était directeur du journal de la France et fondateur de la revue Historia. Sa mère, Bernardine, était spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire. En 1958, elle publie un livre sur la relation entre Napoléon et le pape Pie VII.
Eh bien, Napoléon, naturellement, a varié. C'est évident qu'en 12 ans et 15 ans, il n'a pas eu toujours les mêmes idées. Enfin, ce qu'il voulait, c'était faire un Vatican à Paris et avoir le pape absolument dans sa poche.
Enfin, son grand frère, Alain, a notamment dirigé une encyclopédie du XXe siècle en 1979.
Jamais cette période nous a paru plus troublée. Jamais on a découvert autant de choses depuis 50 ans, que ce soit la relativité, l'énergie nucléaire.
Sabine Melchior-Bonnet se spécialise dans l'histoire des sensibilités. Elle s'intéresse aux sujets qui questionnent l'histoire avec nos intérêts du moment. Histoire du miroir, la vie devant elle, histoire de la femme de 50 ans, les grands hommes et leur mère. En 2019, dans Les revers de l'amour, une histoire de la rupture, elle montre comment la séparation est perçue à travers les siècles.
La rupture est une offense à l'honneur dans les temps anciens, dans l'Ancien Régime. C'est pas du tout une blessure sentimentale. À partir du XVIIIe siècle, c'est vraiment un chagrin profond de l'intimité.
Deux ans plus tard, elle publie Le rire des femmes, une histoire de pouvoir. Le rire féminin a longtemps été considéré comme dangereux pour l'autorité des hommes. Sabine Melchior-Bonnet remonte jusqu'au poète Romain Ovide et à son recueil L'art d'aimer.
Il explique que les femmes, quand elles rient, elles deviennent laides, elles ont les joues qui gonflent, les yeux qui plissent, leur rire peut ressembler au braiement d'une ânesse. Donc c'est indécent.
Aujourd'hui, elle explore l'histoire de la solitude. Au Moyen-Âge, elle était considérée comme très négative. Le solitaire ne peut être qu'un pestiféré, un fou ou un méchant. Désormais, nos sociétés contemporaines valorisent souvent la solitude devenue synonyme d'accomplissement de soi. Dans sa conclusion plus personnelle, Sabine Melchior-Bonnet s'interroge. Liqueur grisante où l'on réchauffe sa liberté ou frisson du lit vide et glacé.
Au passage, quelle parentèle, hein, Sabine Melchior-Bonnet.
La moins bonne de la guirlande.
Ça n'est pas vrai du tout. Votre livre est remarquable. Ça n'est pas dévoiler votre intimité que de dire que vous êtes veuve. Vous l'avez déjà dit dans différentes interviews. Oui. Précisément, le rapport des veuves à la solitude. Vous écrivez, il y a un long chapitre sur les femmes, les veuves et la solitude. Sous l'Ancien Régime, c'était les femmes les plus suspectées, mais en même temps les plus libres. Suspectées d'avoir un rapport presque pervers du fait de cette solitude à l'autre. C'est ça ?
Les plus libres parce qu'elles étaient tellement emprisonnées par leurs parents ou leur mariage que tout d'un coup ça semblait pour elles quelque chose de merveilleux. Mmh. Et c'était quand même une liberté sous condition de ne pas... que la fortune familiale, quand il y en avait, reste à peu près intacte et que les enfants... qu'elle pouvait avoir de son mari ne perdaient pas toute la fortune familiale.
C'est ça. À quel moment date-t-on l'irruption du « je », la naissance du « je », J-E ?
Écoutez, le « moi », très tôt, c'est plus facile à déceler. On trouve déjà chez les stoïciens, dans la littérature philosophique de la Grèce, évidemment dans les premiers textes chrétiens et judéo-chrétiens, on trouve le « je » et le « moi ». Oui, il y a beaucoup déjà de confiance dans le fait de s'exprimer, de partager quelque chose et de dire « moi ».
Ou de trouver une petite enveloppe, une niche de solitude aussi.
Avant que ça ne vienne, que ça ne devienne vraiment courant, moi je pense toujours à Montaigne qui est le premier qui dit « être à soi ».
Il faut se réserver une arrière-boutique pour la vraie liberté et la solitude.
Être à soi, ça me semble très juste pour échapper à la solitude et pour être deux.
Parce que rien n'est mieux que la solitude si elle est choisie et pas subie. Sabine Melchior.
Ah oui, la solitude subie est la plus souvent tragique. Il s'agit du veuvage, il s'agit de la prison, enfin, il y a beaucoup de situations où la solitude n'est pas voulue. Les temps où la solitude est voulue sont rares dans l'ensemble. C'est impensable dans les temps, le Moyen-Âge, parce qu'on a tellement besoin des autres, on est dans des situations tellement compliquées.
Et vous dites, l'individu vit dans un corps organique, qui est la famille, la société, il n'est pas question de s'en extraire. La solitude, ce n'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes. Le prix à payer, vous le montrez bien dans cet essai, pour les femmes est souvent beaucoup plus lourd.
Oui, parce que les femmes sont censées ne pas avoir les moyens de vivre toutes seules. Donc elles vivent avec leurs parents si elles ne se marient pas. C'est leur mari qui a leur l'autorité si elles sont mariées. Et finalement, c'est pour ça que les veuves sont finalement les femmes les plus libres par rapport à... Et comme elles ont été généralement mariées malgré elles, elles trouvent une sorte de liberté double, qui est la liberté.
Beaucoup de femmes mystiques, vous l'évoquez, au XIIIe, XIVe siècle, qui voulaient un accès direct à Dieu et qui s'enferment dans des reclusoirs. Il y a tout un lexique autour de la solitude, le reclusoir.
Le reclusoir, c'est un mot que je n'ai pas retrouvé. Je cherche le mot quand on va voter. Quel est le mot qu'on utilise? On va dans... Comme c'est un inclusoir.
Non. Le reclusoir. Ah oui, l'isoloir. L'isoloir. Non, là, vous évoquez un reclusoir.
Le reclusoir, oui. Ouais. En fait, les femmes n'ont pas eu la possibilité d'aller au désert. Ça a été plus ou moins leur a été défendu comme trop dangereux. Ouais. Donc, c'est un mot qu'on a forgé. Elles-mêmes, je n'ai pas trouvé le mot dans les souvenirs écrits par certaines de ces femmes
qui s'isolaient.
Ouais. C'est vrai qu'en même temps, depuis les années 80, peut-être on se dit que la solitude n'est plus forcément un fardeau. Elle a pris un peu de noblesse ou pas? Dans les dernières années. Peut-être aussi à la faveur des réseaux sociaux, parce que quelque part, on peut communiquer et on n'est plus forcément seul.
Oui, je pense en tout cas qu'elle a perdu le côté péjoratif. Ah. Alors, est-ce que c'est en même temps la noblesse? Peut-être qu'il faut être un peu entre les deux. Une femme seule fait encore un peu peur, je crois.
Une célibatante, puisque c'est le titre de votre essai, de l'ermite à la célibatante. Une célibatante fait peur?
Je pense d'ailleurs que le mot est déjà un peu périmé, enfin, parce qu'il y a moins de célibataires. Maintenant, on dit moins ça. On dit, bon, c'est une femme qui... Je pense que la femme a gagné le droit à être seule, à vivre par ses propres moyens. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dirait plus, la célibataire.
Justement, à propos du lexique de la solitude, il y a des mots extraordinaires que vous relevez. La souleur. C'est Flaubert qui forge ce mot. La solitude et la douleur. Oui. Ou encore... La sollicitude avec deux S, c'est Stromae. Vous évoquez le chanteur Stromae qui a inventé ce mot. La sollicitude, il écrit avec deux S.
Oui, oui, oui.
Donc, comment il faut l'envisager, cette sollicitude?
Comme étant un compromis entre la solitude et la lassitude, et que donc c'est ça le couple.
C'est donc ça le couple. Très bien.
C'est assez sévère avec les réseaux sociaux tout de même, parce qu'en même temps, on se dit que ça peut être, la relation n'est pas forcément tactile, charnelle. L'histoire le dira, si les réseaux sociaux ne sont pas là aussi comme bon antidote à la solitude, non?
Vous avez raison, parce qu'on ne sait rien de ce que ça va devenir. Mais malgré tout, quand on se montre dans les réseaux sociaux, on se vend un peu comme un produit. On veut être drôle, même quand on est à la télévision.
Ah bon? Bon, pas du tout, Sabine. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Je pense que la solitude reste tout de même à part. À part, et ça ne peut pas être la loi du plus de monde possible. Le couple reste quand même ce à quoi nous tendons tous, hommes comme femmes.
Ah bon? Ça se discute, Sabine Melchior-Bonnet. On va évoquer avec vous et avec Alain Diaye, alors des stages de solitude.
Oui,
c'est ça, qui ont lieu et qu'on trouve peut faire partout.
Oui, tout à fait, parce que la solitude, aujourd'hui, on l'a choisie pour s'extraire d'un monde qui est toujours plus agité et plus bruyant. Et comme vous venez de le dire, on voit fleurir des retraites silencieuses, des détox digitales et d'autres stages de yoga. Il existe même des agences spécialisées qui proposent des séjours adaptés à tous les budgets. Et les participants, ce sont aussi bien des hommes que des femmes, des parents qui ont besoin de s'octroyer un moment seul, des citadins en quête de ralentissement ou même des travailleurs au bord du burn-out. Alors, pendant plusieurs jours, ils sont invités à faire le vide grâce à diverses techniques, de la méditation, de la sophrologie, des bols tibétains. L'objectif étant de se recentrer sur soi et de trouver une certaine forme de sérénité jusqu'à la prochaine retraite. Sabine Melchior-Monnet, selon vous, est-ce que ces parenthèses solitaires, elles sont indispensables pour faire face à notre vie très agitée d'aujourd'hui ?
En tout cas, je trouve que c'est une très généreuse idée et c'est un but tout de même très recherché de savoir vivre un peu seul et ne pas être tout le temps dépendant des autres. Oui, je pense que c'est très. Vous me donneriez envie de pratiquer.
Eh bien, alors voilà, allons-y. C'est une dernière question à propos de peut-être la solitude, quelque chose d'assez merveilleux si on a la capacité cognitive, intellectuelle, psychologique, que sais-je. Mais l'isolement, c'est une autre histoire. Vous en parlez de l'isolement. Oui. Les familles monoparentales, les personnes âgées qui se retrouvent dans l'isolement, ça, c'est autre chose.
C'est sûrement très dur. Ça peut simplement être dépassé peut-être aussi.
Comment ?
On peut avoir de l'amitié, il y a tout de même des possibilités. Il y a beaucoup d'offres sociales qui n'existaient pas autrefois. Mais ce sont des situations très difficiles, moi, je pense.
Merci Sabine Melchior-Bonnet. Et nous renvoyons à la lecture de cet essai paru au PUF, Histoire de la solitude, de l'ermite à la célibatante. Il paraît donc que la célibatante est périmée. Ça, on verra ce qu'elles en pensent. Merci encore d'être venues sur